Je vais parler de la question de la migration, mais aussi dans les pays du Nord. Je pense qu'on a un biais aussi parce que la plupart des mouvements de migration ont lieu entre pays du Sud global. Bon, malheureusement, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, en tout cas thématiquement et notamment dans d'autres langues. Donc là, on parle en anglais, mais évidemment, dans d'autres langues, il y a des choses qui se passent également. Alors, je vais commencer avec une nouvelle. Alors, c'est vraiment Christmas is coming, je vous l'annonce. Donc, c'est le nom de la nouvelle et ça tombe bien. C'est dans à peine un mois. Donc, c'est la première nouvelle, en fait, du recueil de Jennifer Nansubuga Macumbi. Donc, ce recueil de nouvelles, là, qui est intitulé Manchester Happened, publié en 2019. Et on a un personnage principal qui s'appelle Luzinda, un adolescent de 13 ans, d'origine ougandaise, et qui décrit les impressions ressenties par de nombreux et nombreuses Africains et Africaines à leur arrivée en Grande-Bretagne. It's Christmas Eve, and the sun, the sly one that appears in winter to taunt Africans, has come out. You've just arrived from home and discovered that Britain is inside a fridge. The novelty of snow wears off, and you beg the sun to come out. Who told you to leave Africa? It sneers. And then, one morning, it appears. You bolt outside to get some sunshine, and whack! The winter cold wallops you. Alors, bon, l'image de la violence du froid sur le corps hein, de ce jeune Ougandais est véhiculée par l'allitération W, l'onomatopée, whack, mais elle fonctionne aussi, cette image, comme une allégorie de la violence, enfin, en tout cas c'est la façon dont je l'interprète, la violence sociale subie par les migrants et migrantes africains une fois arrivés sur le sol britannique. Dès le début de ce recueil, qui traite effectivement des expériences fictives de migrants et migrantes ougandais, à Manchester, Macumbi, elle-même ougandaise ayant décidé de vivre à Manchester alors qu'elle était âgée d'une trentaine d'années, se concentre sur un adolescent qui aspire à rentrer chez lui. Hein. Il parle bien ici de home, qu'il contraste avec Britain. Hein. Et il parle de home à plusieurs reprises. Et c'est un thème qui est vraiment très récurrent hein, dans ce recueil de poèmes. Home étant entendu ici comme l'Ouganda, et qui, bon, ben, pour ce faire, en fait, il envisage d'accuser faussement ses parents de négligence devant les autorités britanniques afin que toute sa famille soit expulsée en Ouganda. Il ne supporte pas la Grande-Bretagne. Alors, si ce passage peut être perçu comme humoristique, il met malgré tout en évidence l'impact d'un changement d'habitat, un changement de culture aussi pour le sujet migrant africain incarné par Luzinda. Alors, l'utilisation ici du pronom personnel you, who told you to leave Africa, mais on a aussi, on voit l'utilisation du présent, donc je pense que ça revient sur des choses qu'on a pu signaler, enfin que vous avez pu signaler auparavant, sont également donc significatifs. Ça permet ici hein, d'inclure ces expériences et remarques dans l'environnement direct des lecteurs et lectrices qui peuvent peut-être se rendre compte, réaliser, prendre conscience du sort réservé aux migrants, migrantes africains une fois arrivés en Europe ou, devrais-je dire, en Grande-Bretagne, puisque voilà. Bon. Dans un entretien, Macumbi explique en effet, donc je cite, I do all this because I wanted to write back home and tell our people, can you imagine that this happens? Alors, l'ensemble du recueil décrit la vie de ces migrants et migrantes ougandais en Grande-Bretagne des années 50 à nos jours. En fait, Macumbi dévoile la dure réalité qui se cache derrière ce qui a été appelé par alors, le rêve européen, si vous voulez, ou ce que Jean-Roger Essomba, donc écrivain camerounais, a appelé le paradis du Nord dans son roman de 96. Donc, rêve européen, paradis du Nord, que beaucoup d'Africains et d'Africaines peuvent imaginer, une vision qu'ils peuvent entretenir. Et c'est quelque chose que l'écrivaine franco-sénégalaise Fatou Diome, par exemple, elle se réfère à ça également. On peut aussi penser alors à Felwine Sarr. Donc, ça, c'est un petit texte que je vous recommande, qui s'appelle Trace. discours aux nations africaines, j'aimerais peut-être vous lire simplement le tout début où Felwine Sarr, donc, qui est écrivain mais aussi économiste sénégalais, et qui imagine en fait un récit à la première personne, récit fictionnel. Ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, je trouve que ça se prête bien ici. Alors, je cite. C'est le prologue. J'ai été vomi par la mer un jour sur une plage de la Méditerranée. J'avais 40 ans. J'étais instituteur dans une petite ville du pays. Puis un jour, je fus pris par une fièvre. Partir, quitter une vie monotone. J'avais formé plusieurs générations d'élèves, semé en eux les graines du savoir et de la liberté, j'espère. Mais mes fins de mois étaient toujours difficiles. Toujours à compter les sous, à priver les miens du plaisir du superflu. Je n'allais probablement jamais finir de construire la petite maisonnée que je bâtissais depuis que j'avais commencé à travailler il y a 15 ans. Et puis ce pays me sortait des yeux, une classe politique véreuse qui décidait de qui pouvait mener une vie décente, une hypocrisie sociale, une gérontocratie étouffante, des horizons emmurés, un avenir barré. Je décidais de tenter l'aventure, je voulais être comme ces jeunes gens du quartier qui, au bout de 5 ans d'exil, ajoutaient un étage à la maison familiale et envoyaient leurs parents à la Mecque ou à Lourdes, et qui surtout avaient gagné au forceps la respectabilité de ceux qui pourvoient à leurs besoins et à ceux des autres. Je n'étais qu'un pauvre bougre, un petit instituteur de quartier sans envergure sociale, sans voix, écouté par personne, sauf par mes élèves, à qui je faisais découvrir le monde avec un certain enthousiasme les jours où la passion me revenait. Je leur donnais les clés pour en apercevoir l'immensité. La plupart du temps, je leur transmettais machinalement des rudiments d'histoire, de grammaire, d'arithmétique, de culture générale, en n'étant pas sûr que tout ceci les rendrait, leur rendrait le monde plus habitable. C'est vraiment des thèmes sur lesquels je vais revenir, hein, l'habitabilité du monde, la question de la voix, etc. Alors, Makoumbi, pour revenir à elle, cherche à raconter cette histoire de migration correctement. Donc, pour revenir un peu au titre, hein, « To tell this short story properly », c'est le titre d'une de ses nouvelles. C'est-à-dire qu'elle cherche finalement à montrer à ses lecteurs et lectrices, notamment africains, que la vie en Europe n'est pas aussi simple qu'il est elle pour elle penser, et à ses lecteurs et lectrices occidentaux, que le vieux continent n'est pas l'Eldorado qu'il et elle croient être pour les Africains et Africaines. Alors, de la même manière, dans la première nouvelle intitulée « The Transfiguration of Rapu », du recueil de nouvelles « Better Never Than Late », de l'écrivaine nigériane Chika Onigwe, également publiée en 2019, l'un des personnages centraux du recueil, ironiquement appelé « Prosperous », explique ce qu'elle ressent lorsque elle et son mari Agou, et à l'époque ils vivent en Belgique, lorsqu'ils rencontrent un Nigérian qui vient d'arriver en Belgique en provenance d'Allemagne. Alors, je cite, « This was a man for whom life in Europe had not been hard. Prosperous envied him that. A life untouched, still by hardness, soft like a baby's buttocks, like the life she had lived before. » Alors, de manière didactique, ici, Onigwe insiste sur la vie difficile, polyptote, hardness hard, en Europe pour certains et certaines migrants et migrantes nigérians, dont elle a l'intention de décrire la vie dans ce recueil composé de 10 nouvelles. De manière paradoxale, alors qu'elle utilise une comparaison pour décrire la vie de cet homme, la rudesse, hardness, est à nouveau perceptible et paradoxale aussi à travers la littération en B dans « Baby's Buttocks ». Donc, la vie des migrants et migrantes nigériens en Europe est ici clairement au centre des préoccupations d'Onigwe, mais elle l'est aussi dans donc, le roman que vous voyez ici en Black Sister Street, où elle raconte l'histoire de 4 prostituées africaines dans la ville d'Anvers, en Belgique. Et au sein même de ce roman, il y a toute une partie qui se passe dans un camp de réfugiés. Donc, on parlait des réfugiés entre pays des Sud, et c'est un camp de réfugiés au Soudan. Et finalement, elle finit au Nigeria et finalement, elle finit en Europe. Mais enfin, voilà, il y a un vrai travail de la part d'Onigwe sur cette thématique-là. Donc, dans The Transfiguration of Rapu, donc cela est démontré grâce à la triple répétition, l'intérêt pour les vies migrantes, on va dire, du substantif « life » et d'utilisation à nouveau d'un polyptote, « life » et « lived ». L'homme décrit par Prosperous, nommé Guashi, ne se trouve cependant pas au cœur des préoccupations principales dans cette nouvelle, comme le montre le titre lui-même, hein, The Transfiguration of Rapu. En fait, Rapu, c'est l'épouse de Guaxi. Et elle est décrite comme « small woman, she was new to Europe ». Donc cette description met, selon moi, en lumière sa fragilité, on en a parlé, sa vulnérabilité, on en a également parlé, non seulement en tant que personne migrante, mais aussi et surtout peut-être en tant que femme migrante. Le genre, dans le sens de gender ici, est central si l'on prend en compte effectivement la dimension intersectionnelle hein, des oppressions subies. C'est aussi, on voit assez peu de femmes finalement dans cette refugee literature. C'est intéressant de voir qu'elles apparaissent ici, en tout cas. Enfin, dans mes lectures. Hein. Je n'ai pas prétention à tout avoir lu. Hein. Bon, une des choses que l'on peut remarquer à ce stade, c'est que Makumbi et Unigwe se concentrent donc à la fois sur les expériences masculines et féminines africaines de migration vers l'Europe. À nouveau, ce qu'elle fait aussi dans Black Sister Street. Donc c'est un aspect essentiel à prendre en compte, car les récits de migration, comme je le disais, de femmes africaines sont encore rares dans la littérature, en particulier dans la refugee literature. Un autre point commun entre les deux écrivaines est qu'elles décrivent des personnages qui aspirent à rentrer chez eux, back home. D'ailleurs, ça c'est le titre d'une des nouvelles d'Unigwe. Alors, le titre, c'est pas « Home is where the heart is », mais « Heart is where the home is ». Bon, cette insistance hein, sur « home », encore une fois, le « chez-soi », que ce soit au Nigeria ou en Ouganda. Toujours dans « The Transfiguration of Rapu », il y a un groupe d'hommes, en fait, qui se réunit régulièrement, ce sont des hommes nigérians qui se réunissent chez Prosperous et Agu. Et en fait, ils sont décrits comme bon, très nostalgiques, en fait. Donc, je cite, « Guaxi was just new to Belgium, and to the group that met regularly at Agus to drink and talk, dissecting their lives and sharing their nostalgia for a country they swore they could not wait to live in again, once the money was made and they could retire and live in the mansions they were going to build in Lagos, Abuja, Enugu, Onitsha, and Jos. » So, il y a plusieurs éléments hein, qui m'intéressent. C'est l'idée de disséquer littéralement sa vie, hein, en faire l'analyse, hein, dissecting. Peut-être un acte poussé encore plus par cette situation en tant que, ou cette position en tant qu'exilé. Ce qui m'intéresse aussi dans cette situation, c'est l'idée, enfin ce jeu, je sais pas si c'est un jeu de mots, mais en tout cas, on peut travailler sur « retire », bon, prendre sa retraite, mais aussi l'idée d'un retrait géographique, c'est ça qui m'intéresse aussi, se retirer d'un endroit. Hein. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'idée qui consiste à croire que les années en Europe vont permettre de construire quelque chose, une maison, un château, mansion, en Afrique, à la retraite, une espèce de mirage qui, évidemment, n'arrive quasiment jamais. Alors, Unigwe, tout comme Makumbi, finalement, réfute l'idée largement répandue, et notamment parmi les dirigeants populistes d'extrême droite ou de droite, tout simplement, selon laquelle tous les migrants et les migrantes ont pour objectif de rester, de s'installer, de profiter. C'est cette rhétorique hein, qu'on entend beaucoup. Et là, bon, on a vraiment une idée de, voilà, de retour hein, qui est en ligne de mire. Et ces deux écrivaines, finalement, insistent aussi sur la douleur que provoque l'exil. Donc, je ferai évidemment référence à Saïd un petit peu plus tard. Mais voilà, je pose juste quelques éléments pour l'instant. Autre nouvelle dont j'aimerais parler dans ce propos un petit peu introductoire ici, c'est celle intitulée « Manchester Happened », où... finalement, la protagoniste réfléchit à la situation dans laquelle se trouvent les migrants et les migrantes africains. Donc elle, je cite, « If Britain is as harsh as you say, why don't you come back? What do you say to that? That starting all over again in Uganda is scary? That you're saving to return, but it may never happen? After all, there are those that made it, legitimately or otherwise. So we killed ourselves working and snared ourselves in debt so we could masquerade when we came home and perform success and perpetuate the dream. But inside, inside, we were dying. Alors, on voit ici hein, une forme de bon, stream of consciousness, un dialogue intérieur, une espèce de blessure aussi hein, qu'on ressent, un dialogue intérieur auquel la voix narrative nous donne finalement accès. Et Unigwe et Makumbi ont également en commun le fait que dans leur recueil respectif, elles ne se concentrent pas sur ce que la géographe française, alors je sais, voilà, c'est ce qu'il y a là, en fait, c'est la couverture ici, sur les damnés de la mer. Donc référence explicite, hein, évidemment, à Frantz Fanon, les damnés de la terre, c'est-à-dire finalement les Africains qui meurent en mer, qui traversent la mer dans des conditions abominables, qui tentent la traversée en essayant de rejoindre la forteresse Europe, des damnés hein, qui apparaissent dans d'autres œuvres. Hein, en littérature francophone ou française, on pense à Trois femmes puissantes, Marie Ndiaye, etc. En effet, la plupart des personnages des nouvelles de Makumbi et Onigwe appartiennent finalement à la classe moyenne. Et décident malgré tout de tenter leur chance en Europe. Donc c'est ce qu'on avait aussi dans le court texte que je vous ai lu de Sartre. Tenter leur chance en Europe et arrivent sur le territoire européen de manière, disons, moins dangereuse. Donc c'est une des raisons qui m'amène peut-être à avoir un petit peu d'hésitation vis-à-vis du terme réfugié ici. Donc j'ai beaucoup parlé de migrants. C'est pas un positionnement idéologique, c'est plus parce que ça ne correspond pas à la réalité que je me fais peut-être à tort du terme réfugié, mais comme tu es revenu sur les définitions, je pense que... Alors, dans le cadre de cette communication, j'aimerais proposer donc une étude, brève étude comparative de ces deux recueils, mais j'ajouterais aussi un autre recueil, pas un autre recueil, je dis n'importe quoi, un autre ouvrage qui est ici, donc Foreigners, Three English Lives, de Carol Phillips, mais pas tout l'ouvrage, seulement la troisième partie qui s'appelle Northern Light. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je le fais, mais bon, essentiellement parce que les trois traitent du même sujet, la migration africaine vers l'Europe ou la Grande-Bretagne. J'aimerais parler, entre autres choses, du chez-soi, home, de la migration, de la question de la voix et de la représentation de tout cela dans ces deux recueils, mais aussi j'aimerais réfléchir à la forme. Donc, let's tell this story properly. Bon, évidemment, c'est un peu facile, mais let's tell this short story properly, puisque ce sont des recueils de nouvelles. C'est un peu plus compliqué pour Carol Phillips, on y reviendra peut-être. Mais voilà, qu'est-ce qui motive ces auteurs-là et autrices à choisir cette forme courte? Bon, c'est une question à laquelle je ne vais probablement pas avoir de réponse claire. Mais voilà, je vais te proposer des pistes. Donc, qu'est-ce qui peut motiver ce choix générique? Qu'est-ce que ce choix apporte quant à la volonté des deux écrivaines de transmettre les expériences de ces migrants et migrantes africains en Europe? Voilà. Alors, le premier point que je voulais... Bon, peut-être une première partie serait une approche postcoloniale de ces recueils de nouvelles. Donc, tout d'abord, j'aimerais proposer l'idée selon laquelle Manchester Happened est « Better Never Than Late ». Vous voyez aussi, il y a encore une fois un renversement, hein, pas better late than never, mais better never than late, sont des recueils transculturels s'intéressant à la dynamique dialogique entre les cultures. Ces recueils décrivent tous deux des personnes déterritorialisées, hein, pour reprendre Deleuze, qui se déplacent au-delà des frontières culturelles et nationales. Ils décrivent des vies africaines ailleurs, pour citer ici « Life Elsewhere », que vous voyez ici, la couverture de Segun Afolabi, qui là aussi est un recueil de nouvelles hein, sur la migration et sur le déracinement. « Manchester Happened » est divisé en deux parties. Donc vous avez la première qui est intitulée « Returning » et l'autre, la deuxième qui est intitulée « Departing ». Et... Or, je reviendrai là-dessus, ce n'est pas « departing and returning », c'est important. Je parlais de personnages tout à l'heure, à l'instant déterritorialisés. C'est le cas notamment, si je reviens à la nouvelle dont je parlais tout à l'heure, dans « Christmas is coming ». Alors, petite parenthèse ici, j'ai relu récemment « East-West » de Rushdie, et je me suis dit qu'en fait, il y avait quelque chose à faire, notamment, bon, c'est un East-West de Rushdie, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est le seul, à ce jour, recueil de nouvelles de Rushdie, écrit, en, si je me souviens bien, en 94. Et la première nouvelle s'intitule, oh là là, « Good advice is rarer than rubies ». Alors, pourquoi j'avais ça en tête? Eh bien, tout simplement parce que la nouvelle de Rushdie se veut comme une, en tout cas je l'interprète comme ça, une déconstruction des tropes orientalistes. On a un personnage principal qui est une femme indienne qui s'appelle Rayana, qui tente d'obtenir un visa pour la Grande-Bretagne, mais qui finalement décide d'échouer au test imposé par l'administration britannique. Donc elle fait volontairement le choix de ne pas se rendre en Grande-Bretagne parce qu'elle sait par ailleurs qu'il y a un mariage arrangé qui l'attend et qu'elle ne veut pas subir ça. Mais bon, ça déconstruit en fait des clichés tenaces. Et je crois qu'en fait, ces deux écrivaines sont dans la même veine, c'est-à-dire une déconstruction des clichés tenaces sur les réfugiés, les migrants, etc. Alors, là où Rushdie effectivement déconstruit certains clichés orientalistes et racistes sur les personnes du Sud global souhaitant se rendre en Occident, Macombie déconstruit elle aussi un cliché raciste et puis qui limite, hein, limitant. Elle déconstruit un cliché par le biais de l'histoire, dans Christmas is Coming, de ce jeune garçon qui ne parvient pas à trouver un ancrage culturel en Grande-Bretagne et souhaite une seule chose, retourner chez lui en Ouganda. Donc il ne rêve que de cette chose-là. Son manque d'ancrage culturel en Grande-Bretagne est attesté notamment par son endroit de prédilection dans la maison. Je cite, He stays on his windowsill. Looking out. Donc, une espèce de, bon, pour revenir à l'entre-deux, mentionné par Rushdie d'ailleurs, hein, notamment dans Imaginary Homelands, etc. Il est à noter aussi, je crois, que le recueil de Macombie commence par, alors pas je crois, le recueil de Macombie commence par Returning, et pas par Departing, ce qui constitue un moyen aussi de renverser certains stéréotypes, préjugés sur l'immigration. Le retour étant vu ici comme essentiel, comme horizon à atteindre. Quoi qu'il en soit, on voit là une réflexion engagée autour des frontières, des franchissements de frontières, etc. Alors, une autre nouvelle sur laququelle j'aimerais m'attarder, toujours dans l'ouvrage de Macombie, c'est, je vérifie le temps, bon, je suis bien là, s'agissant donc des franchissements des frontières, qu'elles soient nationales ou culturelles, c'est Memoirs of an Amazo. Alors c'est une nouvelle qui est assez drôle, c'est assez cocasse la situation. C'est un personnage principal s'appelle Stowe. Alors Stowe, Stow, donc le jeu de mots avec stowaway en anglais, voyager clandestinement, s'embarquer clandestinement, mais aussi engloutir, de Stowe. Et en fait, finalement, ce personnage, c'est un chien. Et donc elle se fait finalement, enfin la narratrice ou le narrateur, la voix narrative, se fait le ventriloque finalement des expériences d'un chien errant ougandais. Et il est très déçu parce qu'en fait, il avait un statut en tant que chien errant en Ouganda. C'est super cool d'être un chien errant en Ouganda. Mais il devient a pet en Grande-Bretagne et on lui donne des croquettes. Contre les allergies, etc. Il déteste ça. Lui, il veut manger des trucs gras, des restes de poulet, etc. Bon, voilà, ça, c'est l'histoire. Bon, évidemment, c'est drôle. Bon, mais il y a évidemment une autre lecture. Donc, alors, l'histoire, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la seule à utiliser un récit à la première personne dans le recueil. Alors, je crois aussi que c'est lié. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une hésitation, une réticence, un positionnement éthique compliqué vis-à-vis de l'appropriation de la voix, le jeu. Bon. D'ailleurs, Unigwe, sur ses 8 ou, je sais plus, 8 ou 10 nouvelles, il n'y a que un I dans des nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui. Alors, c'est plus flagrant chez Macombie qui utilise le I pour un chien. Bon, là, ce n'est pas très grave, on a envie de dire. Mais évidemment, dans l'optique de ne pas s'approprier la vie d'un être humain, son histoire, de parler à sa place, évidemment, ce que disait Gayatri Spivak dans Can the Subaltern Speak. Donc, comme je le disais, cette histoire raconte le changement de statut d'un chien ougandais, d'un chien migrant, sa déterritorialisation, sa reterritorialisation. En fait, l'histoire aussi, c'est qu'il en fait, il s'aventure chez un Britannique et finalement, il se cache dans une malle. Le Britannique ferme la malle, le chien est embarqué dans l'avion et il retrouve le chien en Grande-Bretagne. Donc, reterritorialisation physique, mais aussi culturelle. Embarqué par erreur depuis son Ouganda natal, dans une malle vers la Grande-Bretagne à bord d'un avion. Situation improbable s'il en est, prête à sourire, mais évidemment qui permet de réfléchir à des éléments tragiques. Et si je reviens un petit peu simplement sur le sous-titre, je ne sais pas si on le voit bien. Bon, on ne le voit pas, mais elle parle de « The tragedy of leaving home », Chika Onigwe dans son recueil. Alors, la nouvelle commence ainsi. My British name is Stowe. I'm 16 human years old and I was born a pariah dog in Uganda. Call me feral if you're contemptuous. I only became a pet when I arrived in Britain 15 years ago. I have 3 or 4 weeks to live. Alors, bien que cette nouvelle puisse être, comme je le disais, perçue comme humoristique, elle doit être lue, selon moi, comme une allégorie, bien sûr, Macumbi exposant les changements radicaux auxquels les migrants et migrantes sont confrontés lorsqu'ils et elles arrivent dans un pays ou une culture étrangère. Le titre de cette nouvelle permet également de soulever la question de l'écriture des récits de vie, hein, mémoires, venamanso, les mémoires, comme s'il s'agissait d'une question d'ordre existentiel pour ce chien de raconter sa propre version de l'histoire, par extension, comme s'il était essentiel aussi pour les migrants et migrantes africains, de raconter leur version de l'histoire, de raconter leur propre histoire correctement, pour revenir au titre de la nouvelle d'Unigwe, et d'échapper à ce que Chimamanda Adichie appelle le danger d'une histoire unique, ne pas laisser les médias occidentaux, par exemple, raconter leur histoire à leur place. En outre, les récits de vie, hein, que ce soit les autobiographies, les mémoires, ont longtemps été dominés par des hommes blancs, cisgenres, de classe sociale supérieure. Ça a été un genre qui a été prédominant dans cette catégorie-là. Et il y a eu une réappropriation plus tard des marges, hein, des codes de l'autobiographie, des mémoires, etc. Donc le choix du genre de la nouvelle, le choix des mémoires, mais je crois aussi qu'on peut maintenant se pencher, parce que c'est l'objet un peu aujourd'hui sur la forme, le choix du genre de la nouvelle qui mérite qu'on s'y attarde. Car je pense, si on regarde un petit peu ce que disaient les médias occidentaux, mais c'est toujours le cas, hein, mais surtout en 2015, lors de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, on a eu tendance à décrire, et là c'est l'image que je vous mets ici, hein, des grandes foules de migrants et migrantes avançant vers l'Europe sans donner à ces personnes une voix distincte ou une individualité, une horde en fait de migrants qui s'avancent comme ça dangereusement. Alors, pour moi, le choix du genre de la nouvelle par Macumbi Onigwe à cet égard est intrinsèquement donc politique. Hein, Deleuze et Guattari parlent de littérature mineure, s'agissant de la nouvelle, la littérature mineure étant intrinsèquement politique. Et c'est aussi Frank O'Connor qui nous parle il écrit « The short story remains by its very nature remote from the community, romantic, individualistic. » Donc j'aime bien cette idée, hein, de la perspective individualiste. O'Connor ajoute que le genre de la nouvelle met en avant, je cite, « an intense awareness of human loneliness », ce qui présente évidemment de nombreux avantages pour nos thématiques étudiées ici, et notamment pour la nouvelle « becoming prosperous », donc le jeu de mots, hein, « prospère » et « devenir prosperous ». Et alors, évidemment, loin de devenir prospère, ces deux personnages, finalement, voient au contraire leur statut social changé. J'aimerais citer juste ce passage. « In that blurry former life, Agu, respected her job, her need to rest after work. She never felt that she was sacrificing her life for his. Weekends were spent in bed, talking about colleagues and dreams, and whether or not to go Saturday night dancing, and should they start having babies. They had maids. Donc, vous voyez, changement de statut, hein. Perte de statut social. Je précise également que le nom Agu en Igbo signifie lion, hein, élément éminemment ironique, une force qui a disparu pour cet homme lors du passage vers l'Europe. Ce déclassement est également présent dans une autre nouvelle qui s'appelle Cleared for Takeoff, où le personnage principal fait allusion à la situation à nouveau de Prosperous et d'Agu. Donc en fait, Prosperous et Agu sont présents dans toutes les nouvelles. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc je cite, but ego was not the only educated one being forced to sacrifice. Donc la notion de sacrifice qui revient ici. Prosperous and Agu, did you think they didn't have degrees? Prosperous cleaned homes and she hadn't left her husband yet. Voilà à nouveau une référence donc au sacrifice, faisant de ces migrants et migrantes des figures bon, sacrificielles à nouveau, hein, peut-être pour la communauté. Comme on le voit ici, l'Europe a également un impact négatif sur les couples qui se sont formés avant d'arriver en Europe. La solitude à laquelle O'Connor fait allusion est finalement celle, j'aime beaucoup cette citation, des submerged population groups, donc littéralement les groupes, enfin les populations submergées, donc on comprend ici aussi marginalisées, celles et ceux qui sont en marge de la société, ce que O'Connor appelle les little men, Gogol's officials, Turgenev's serfs, Maupassant's prostitutes. Donc il semble important pour Makumbi et Onigwe de donner aux individus ougandais et nigérians marginaux dans ces recueils une voix, ou au moins une certaine visibilité, ce qui fait aussi référence à ce que Carol Phillips fait dans Foreigners, Three English Lives, dans Northern Light, où il rend visible un Nigérian que l'on voit ici, marginalisé dans les années 40 à Leeds, David Oluwale, dans un récit qu'on pourrait qualifier, si on suit Cathy Bira, de Creative Biography. La nouvelle semble donc être utilisée pour mettre en lumière les expériences de personnes marginales. Et pour continuer sur la spécificité de la nouvelle, hein, vous avez aussi Viorica Patea qui explique que la modernist short story se définit par sa brief, fragmentary, inclusive form. Vous avez aussi Ian Reid qui, dans le contexte de la littérature française du 19e, explique que mostly it could be left to the novel to delineate those large-scale social patterns which were so amply extended within urban life. The short story seemed especially suitable for the portrayal of regional life or of individuals who, though situated in a city, lived there as aliens. Et Viorica, Patea le confirme une fois de plus puisqu'elle considère la nouvelle comme une form of the margins. Juste un petit peu parler de l'identité au cœur des deux recueils. Donc ici, j'aimerais parler de l'essai de Saïd, donc Reflections on Exile. Et il écrit, donc, Exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. It's the unhealable rift forced between a human being and a native place, between the self and its true home. Its essential sadness can never be surmounted. Il parle également de estrangement of something left behind forever. Et il explique que the status of exile is legislated to deny dignity, to deny an identity to people. Because exile is fundamentally a discontinuous state of being, exiles are cut off from their roots, their land, their past. Donc un état un peu discontinu, les exilés étant coupés de leurs racines, de leur terre, de leur passé. Et tous les personnages de ces nouvelles font finalement l'expérience de la stase, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Et stuck in transitness, forcément, hein, je voulais en parler, donc ça me permet de couper rapidement. J'avais aussi pour ambition de parler de la fragmentation. On aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais je crois qu'effectivement la nouvelle aide à ça. Peut-être une spécificité du recueil d'Onigwe, c'est que je vous ai dit que Prosperous et Agu étaient les personnages qui étaient présents dans toutes les nouvelles. Donc ça, c'est soit a short story cycle, ou peut-être un roman composite, enfin on ne sait pas trop en fait, une espèce d'un... On n'arrive pas vraiment à déterminer ce que c'est que cette chose-là, de façon générique. Enfin, pour terminer peut-être assez rapidement, donc Poetics of Fragmentation, Vanessa Guignuré, Vovček Drag, que je voulais mentionner. Je voulais parler un petit peu, pour terminer, deux, trois éléments. De l'épigraphe de l'invisibilité sociale du philosophe Guillaume Leblanc. Alors, Guillaume Leblanc nous donne, en fait, dans l'épigraphe de l'invisibilité sociale, cite Invisible Man de l'écrivain africain-américain Ralph Ellison. Il dit: I'm an invisible man, I'm a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids, and I might even be said to possess a mind. I'm invisible simply because people refuse to see me. Ça, c'est très important, notamment dans le contexte de Northern Light de Carol Phillips, où les gens refusent finalement de voir David Oluwole. Et j'aimerais peut-être juste revenir sur cette longue citation, c'est l'un des derniers points. Que je vais développer. Donc ça, c'est issu de Foreigners. David expected to be arrested, so he didn't bother to try and hide. He just kept going back to the heart of the city center and staying there where he knew that he would be very visible. It was as though he was challenging them to remove him from the city. They would beat him and arrest him, but his attitude was clear. I will just do what I want to do and I won't disappear. I won't be invisible. Je ne vais pas tout lire, mais je vois ici, en fait, je pense que c'est Sarah Ahmed, par exemple, qui peut nous aider à voir ça, ce I won't, I will, hein, un willful subject, hein, un sujet qui est obstiné, l'obstination, qui est quelque chose qu'on retrouve hein, dans ces recueils. Et puis aussi cette mobilité constante retournée vers le cœur de la ville. Pas aux marges, mais vers le cœur de la ville. Mais aussi, on pourrait parler d'une mobilité, pour reprendre peut-être un terme d'Anna-Lena Tuavonen, qui parle de zombified mobility. Donc une mobilité zombifiée, une sorte de zombie. Et puis finalement, je vois ces gestes littéraires, pour citer Rancière, comme des gestes politiques, puisqu'ils permettent hein, de. Étendre hein, le partage du sensible, de créer le dissensus également. Bon, ça, je vous invite à vous pencher sur Rancière. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous montrer une vidéo parce que c'est Fatou Diome qui nous parle en fait des êtres additionnés.
Donc, sur la question du chez-soi et de l'identité. Chez moi ou chez l'autre. Être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent perplexes quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette kéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque, las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour. Le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « Celles-ci sont mes couleurs » a transformé l'arc-en-ciel en bombe atomique et rangé les peuples en armée. Vert, jaune, rouge, drapeau sénégalais ou bleu, blanc, rouge, drapeau français. Des barbelés, évidemment, je préfère le mauve. Cette couleur tempérée, mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve? Le bleu, madame? Ou le rouge? Et puis, à quoi sert-il de s'en enquérir si le mauve vous va bien? Le bleu et le rouge. Les champs et les loups, je les ai dans la tête. Je les emporte partout avec moi. Où qu'on aille, il y aura toujours des chiens et des loups. Ce n'est pas une question de frontières. Je cherche mon pays, là où on apprécie l'être additionné, sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays, là où s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche, un carnet, ça tient dans un sac de voyage. Alors, partout où je pose mes valises, je suis chez moi comme aujourd'hui, à Brest. Aucun filet ne saura empêcher les algues de l'Atlantique de voguer et de tirer leur saveur des eaux qu'elles traversent, racler, balayer les fonds marins, tremper dans l'encre de sèche, écrire la vie sur la crête des vagues, laisser souffler le vent qui chante mon peuple marin. L'océan ne berce que ceux qui l'appellent, j'ignore l'amarrage. Le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les mille écrins où le destin cache les solutions de ces mille erreurs. Dans le rugissement des pagaies, quand la mamie-maman murmure, j'entends la mère déclamer son ode aux enfants tombés du bastingage. Partir, vivre libre et mourir comme une algue de l'Atlantique. Je vous remercie.
Bon, donc je vais conclure, alors terminer voilà, sur cette note, on va dire francophone cette fois, donc la voix de Fatou Diome, qui nous parle des êtres additionnés, et comme c'est le cas notamment des personnages que l'on a dans ces deux recueils. Et je vois là Fatou Diome donc, chanter les louanges de l'entre-deux culturel. Elle refuse de choisir, d'être assignée, elle refuse les injonctions à choisir, hein. Elle se présente toujours comme une franco-sénégalaise. C'est peut-être un peu ça aussi, la Refugee Literature, une ode aux êtres additionnés, un appel aussi à l'hospitalité, un appel aux soins, peut-être au care, tâche centrale dont peut se charger peut-être la littérature. Et j'aimerais aussi terminer avec une référence que je vous conseille, un ouvrage qui vient d'être publié, de Anna Moza, la maison d'édition qui fait de très bonnes choses. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc ça, c'est un autre... Ce n'est pas Manuel Valls cette fois-ci, hein, mais bon. En finir avec une sentence de mort. Voilà, je voulais finir sur ces éléments peut-être un peu plus positifs.
Merci beaucoup.